Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Biro.
Halud Mouni.
Chen Biri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Le franc CFA, c'est de lui qu'il est question dans le grand dialogue d'aujourd'hui. La monnaie fait souvent l'objet de débats, des débats souvent houleux au cours desquels certains vont jusqu'à dire que les pays africains doivent se retirer de la zone franc. Le président tchadien Idriss Déby vient d'exprimer ouvertement sa position sur le sujet. Pour lui, les pays membres de la zone devraient songer à se débarrasser du CFA, une prise de position qui vient forcément relancer le débat. Alors, pourquoi en veut-on au CFA? Pèse-t-il sur lui une menace quelconque? Profiterait-il plus à d'autres? Les pays concernés peuvent-ils créer leur monnaie sans courir le risque d'échouer? C'est à ces questions et à bien d'autres qui vont répondre nos invités, qui sont le professeur Ablaye Niang, il est économiste, Ousmane Ben Ofana, également économiste, et Abdul Karim Kone, il est l'auteur d'un livre intitulé Péréquation Nord-Sud, une traite de droit et de finances. Monsieur Kone réside au Canada. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la présentation, Seydou Fomba.
Studio Tamani.
Le premier volet de ce débat est consacré à la naissance du CFA, sa valeur, ses rapports. Alors, tout le monde parle de CFA, même les enfants, mais tout le monde ne sait pas fortement ce qui se cache derrière cette abréviation. Alors, ça veut dire quoi, CFA, professeur Ablaye Niang?
Pour être plus simple, c'est le franc des colonies. Et il est né en réalité, bon, beaucoup plus les gens parlent de 1929, mais moi je vais plutôt à 1944. C'est-à-dire que la conférence des Nations Unies qui s'est tenue sur la monnaie et la finance en juin 1944 à Bretton Woods, qui a vu la naissance de la Banque mondiale, le FMI, a provoqué quelque chose sur les Français. L'accord a provoqué la dévaluation du franc CFA, du franc français par rapport au dollar. Et cette dévaluation a été violente pour l'économie française. Et qu'est-ce que la France a fait? Elle s'est retournée vers ses colonies et a créé le franc CFA, qui a changé de nom plusieurs fois. Ils ont créé le franc CFA avec une parité qui permettait d'amortir le choc de la dévaluation du franc français par rapport au dollar. Et la France a procédé à beaucoup de dévaluations du franc français par rapport au dollar pour atteindre une certaine stabilité dans son économie. Entre 45 et 48. Le franc CFA a été créé en décembre 45. Maintenant, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent réévaluer la valeur du franc CFA par rapport au franc français. Et ils l'ont évalué de 15%. Donc, en réalité, il y a un pacte colonial qui fait que ce qui est produit en Afrique sert essentiellement pour l'industrie française. Donc, ils fixent la parité entre le franc français et le franc CFA pour l'intérêt supérieur de la nation française. Aussi longtemps qu'on était dans les colonies, on peut dire que ce sont des provinces. Mais à partir du moment où on a pris l'indépendance, 55 ans après, nous continuons toujours à maintenir la France, l'emprise de la France sur le CFA. Et je pense que c'est le coup de gueule du président Déby, qui d'ailleurs, quand le journaliste l'a posé, parce que vous, les gens des médias, des fois vous prenez les gens au dépourvu, il a dit, mais vous m'avez piégé là, je ne m'attendais pas à cette question. Mais comme c'était au fond de son cœur, et que moi je me souviens quand j'étais directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de 97 à 99, au moment où l'euro venait, le président Bongo avait demandé à mon bureau de faire une étude sur le CFA. Et j'ai vu que réellement Bongo, qui voulait depuis ce temps-là ne pas avoir l'attachement du France CFA au dollar et l'emprise du trésor français sur le CFA, n'a pas pu aller loin. Et finalement il a été vengé par son plus jeune frère et Déby, qui s'est donné vraiment à cœur joie à ce que le franc CFA ne doit pas être. Et sinon, un torchon qui peut demain devenir quelque chose à jeter à la poubelle. Il disait dans 2 ans. Bon. Mais je pense qu'il a trop pédalé après. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'assurer que la population comprenne pourquoi la France utilise la monnaie pour dévaluer successivement pour la stabilité de son économie, et que nous, on est à parité fixe entre le CFA et l'euro, et on nous empêche, ou nous nous empêchons, nous nous privons de ce droit d'utiliser la monnaie comme étant un instrument pour le développement de nos capacités de croissance économique.
Alors, nous avons en ligne un autre économiste, il s'agit de Ousmane Benfana. Alors, dites-nous, monsieur Benfana, que pouvez-vous nous dire de la naissance du franc CFA?
Oui, déjà, vraiment, je remercie votre studio pour ce débat. Ce débat qui est extrêmement important. Mes salutations également au professeur qui vient de parler, professeur Nyang. Et c'est vrai que je suis économiste dans le fond, mais également un politique. Donc, mon intervention va doubler, en fait, de ces deux casquettes. Mm-hmm. Il va de soi que je suis d'accord, et le professeur vient de le confirmer, c'est à partir de 45, donc, que tout cela est parti. Et donc, bien sûr, les accords de Bretton Woods, quand la France a donc ratifié ces accords, et bien sûr également le Fonds monétaire international, quand il y a eu donc les premières déclarations à ce niveau, il a donc créé, c'est vrai, un franc des colonies françaises d'Afrique à l'époque, pour compléter également un peu le professeur. Et cela a été émis en son temps par ceux qui s'appelaient une sorte de caisse centrale de la France d'outre-mer. Et ça, c'est une autre époque. Mais ce qui est aujourd'hui extrêmement important, et je vais glisser là-dessus, c'est que tout cela, c'est l'histoire du franc CFA qui s'est déroulée, parce que beaucoup de gens ne savent pas aussi que le franc CFA était dans des pays en son temps comme le Maroc, comme la Tunisie et comme l'Algérie, qui se sont progressivement retirés donc du franc CFA, à partir bien sûr de notamment l'Algérie, ça s'est fait pratiquement en 63, les autres également dans les années 57, notamment le Maroc et la Tunisie dans les années 57-58. Tout cela fait partie donc de l'histoire de cette monnaie, et qui a donc un peu conservé tout notre continent. Mais ce que je voulais également rajouter, et bien sûr avec également la bienveillance du professeur Nyang, c'est que nous savons que il y a une sorte de qu'on appelle une sorte de libre convertibilité, parce que dès le départ, c'est ce qui prévalait entre donc le franc CFA et en son temps, il y avait le franc français. Mais maintenant, cette libre convertibilité continue aussi, parce que dans les bases de la création du franc CFA, dans son historique, il y a cet élément qui est une sorte d'arme que certains économistes pensent une arme qui nous défavorise. Parce que faire du franc français, c'est comme si faire du franc CFA, c'est comme si on émettait aussi du franc français. Parce que le franc français garantit quelque part, le trésor français garantit donc le franc CFA. Je vais m'arrêter là.
Oui, dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce franc CFA... D'accord, on reviendra sur cet aspect. Je voudrais...
Exactement.
D'accord. Et nous avons également en ligne Abdoulkarim Kone. Lui, il est écrivain, il est auteur d'un livre intitulé « Péréquation Nord-Sud ». Dans ce document, il touche les questions financières. Alors, dites-nous, monsieur Kone, dans votre livre, est-ce que vous vous êtes intéressé aux circonstances dans lesquelles le franc CFA est né?
Oui, merci tout le monde. Bien sûr, je me suis intéressé à la question du franc CFA, mais particulièrement au fonctionnement même de l'économie, parce que je ne peux pas écrire sur la mondialisation sans écrire sur le fonctionnement des banques, le fonctionnement et le fonctionnement de l'économie. Mm-hmm. Donc, pour cette question, je voudrais juste... Moi, je me retiens un peu parce que avec deux grands économistes, comme le professeur Abdoulaye Niang, qui est mon mentor, et M. Ousmane Benfana, bonjour à tous les deux. Bonsoir. Donc, moi, je pèse tous mes mots, mais je voudrais juste ajouter une petite phrase à ce que mon prédécesseur a dit, à savoir M. Ousmane Benfana, quand il a parlé de convertibilité. Moi, je signale d'abord que je suis néophyte à la matière, je suis informaticien, mais mes frustrations m'ont poussé à écrire un livre et je suis allé jouer dans la cour des grands, des économistes. Donc, en parlant de convertibilité, moi, dans mes recherches, j'ai appris que pour garantir la stabilité et la convertibilité illimitée du franc CFA, que depuis à la production de l'argent, 50% de chaque montant fabriqué est gardé et qui doit être normalement en circulation dans la, dans, dans la zone franc CFA est gardé en France comme réserve. Donc, ce qui me touche pour ça, c'est qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, aucun de ces 14 pays, je pense très bien de la France, de la, du franc CFA, ne peut chiffrer avec exactitude combien cette réserve vaut. Donc moi, je retourne la question aux deux économistes. Si d'abord ce que je dis est avéré, ben, est-ce qu'il y a un moyen de savoir cette réserve? Parce que cette réserve peut servir de caisse d'emprunt pour, au lieu d'aller prendre de l'argent avec la FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et autres, est-ce que cette réserve ne peut pas servir de caisse d'emprunt à des taux meilleurs? Parce que la dette odieuse que l'Occident nous fait, c'est des dettes gagées sur nos matières premières. Je m'arrête là.
Alors, nous allons donc demander au professeur Avlanyank, ici présent dans ce studio. Alors, professeur, dites-nous, cette réserve, cette question, cette, on ne va pas l'appeler histoire, mais cette réserve, est-ce qu'on peut en savoir quelque chose ou est-ce qu'il faut être dans les secrets de Dieu pour savoir si elle existe ou pas?
Non, les réserves existent, hein? Mais le problème, c'est de savoir quel est le montant des réserves. Je pense que le président Tchadien l'a dit aussi.
Et c'est avéré qu'elle est gardée là-bas?
Oui. En fait, le ministre, un ministre togolais, bon, l'a évalué pour 2005 à 3 500 milliards, mais des chiffres de 2005 en 2015 n'ont pas beaucoup de valeur. Non, ce qui est sûr et certain, c'est vrai, nous avons la fixité, nous avons la libre convertibilité, mais nous avons cette réserve qui est gérée par la France avec des taux variés à un moment donné, mais c'est un esclavage que nous avons nous-mêmes accepté de faire parce que ça fait 55 ans quand même. Et on dit, on fait ces réserves-là parce qu'on n'a pas la rigueur de gérer notre monnaie. Mm-hmm. Nous n'avons pas la rigueur peut-être de gérer les réserves. Mais comme l'a dit Kone, que je salue des passages et puis Ben aussi, et en fait, les leaders africains sont emprisonnés, sont sous contrôle des sociétés secrètes. Mm-hmm. Et on ne sait pas qu'est-ce qui les retient pour se débarrasser du CFA, qu'est-ce qui les retient pour prendre avantage du CFA en tant que monnaie qui a pu nous mettre dans une union et dire que bon, ça n'est assez, on déconnecte le CFA du trésor français, on déconnecte le CFA de l'euro. Mais je crois qu'on arrivera à un moment donné, si oui ou non, et on devrait frapper notre monnaie, et si oui ou non, on devrait avoir notre monnaie. Ce n'est que des relations de sociétés secrètes entre le gouvernement successif français et le gouvernement successif africain qui fait qu'on n'arrive pas à connaître et le niveau des réserves, on n'arrive pas à dénoncer cette relation qui existe entre nous, on n'arrive pas à dénoncer ce pacte colonial qui existe entre nous. Et il n'y a aucun moyen aujourd'hui de bénéficier de 100% des dividendes de la création de croissance économique dans nos pays.
Alors, quand vous dites société secrète, c'est une expression imagée, je suppose.
À ordre. Mm-hmm. Ils existent. Hein. La manifestation d'une des sociétés secrètes à ordre, c'est Tommy, en ce qui concerne le Mali. Mm-hmm. Et ça, c'est connu de tout le monde maintenant, donc on peut quand même s'en référer. Mm-hmm. Mais sinon, il y a d'autres formes.
18h30, dans une trentaine de secondes, la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le franc CFA, c'est le sujet du jour. Pour l'évoquer, nous avons trois invités. Le professeur Avlanyank, économiste ici dans le studio. Abdoul Karim Kone, écrivain, auteur du livre Péréquation Nord-Sud, consacré quelque part aux finances. Et Ousmane Ben Fana, qui est économiste. Alors, Abdoul Karim Kone, qui évoquait donc l'existence des réserves là-bas à Paris. Et le professeur Nyang s'est exprimé là-dessus. À présent, nous allons demander Ousmane Ben Fana de réagir à cette question de réserve.
Oui, vous savez, les questions, les réserves, comme le professeur vient de le dire, font toujours matière à spéculation, parce que beaucoup de personnes pensent que le franc CFA, chaque fois que la monnaie est mise, beaucoup de gens pensent qu'il y a des réserves qui sont stockées, et que ces réserves, bien sûr, peuvent servir à l'Afrique. Mais vous savez, nous avons une certaine réalité que j'aimerais partager avec M. Koné. Quand on regarde, en fait, dans l'affaire du franc CFA, comme on aime le dire, quand on voit les avoirs de change et de la zone franc, quand nous regardons les quantités et des avoirs extérieurs et que de nos deux banques déjà, parce qu'en réalité, nous avons la banque et la BCAO, la Banque de l'Afrique de l'Ouest, mais nous avons également l'autre banque, qui est la Banque centrale de l'Afrique centrale, qui aujourd'hui est surliquide à cause de tout ce que la Guinée équatoriale actuellement fait comme boom avec le pétrole. Cette banque est devenue surliquide. Mais il se trouve que, dans le fond, ces avoirs extérieurs de nos États regroupés dans leur ensemble des deux banques ne dépasse pas, est très faible par rapport à l'ensemble de l'avoir extérieur de tout ce que fait la France. Parce que c'est des rapports infimes, c'est des chiffres qui peuvent aller à une vingtaine de milliards de dollars pour nous, nos banques, et à peu près à plus de 450, même plus, milliards de dollars, disons d'euros, par rapport à la France. Donc vous voyez un peu, c'est pour cela également. Moi, je pense que chaque fois que nous parlons aussi de la monnaie, en réalité, il va de soi que bâtir une monnaie, cela confère à nos États beaucoup plus d'indépendance. Cela confère, là c'est le politique qui parle, beaucoup plus et également ce que nous appelons beaucoup plus de légitimité, également et que nous puissions parler de la même voix dans le monde. Mais derrière cette garantie, tout ce que la France fait derrière, et qu'est-ce que la France gagne réellement? Cette question mérite d'être posée. Parce que qu'est-ce que la France gagne en garantissant le franc CFA? Qu'est-ce que la France est en train de gagner? Je pense que ce débat, et nous allons y venir en profondeur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est extrêmement important. Nos pays africains, qu'est-ce qu'ils perdent? Qu'est-ce qu'ils gagnent en étant dans un franc CFA? C'est vrai qui est pratiquement émis en Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique. Et nous avons ici deux banques centrales. Et ces banques centrales fonctionnent selon aussi des règles établies, des règles acceptées par nos pays. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que notre économie a? C'est là que je vais glisser vers ces questions qui ne peut notre monnaie, quelle que soit la situation, ne peut avoir une force que si nous acceptions d'avoir vraiment une économie aujourd'hui qui transforme nos matières premières. Parce que plus tard, tout le débat va revenir un peu à cela. Vraiment, je m'arrête là.
Alors, la zone franc est assez critiquée en Afrique par les intellectuels, mais la zone franc n'offre-t-elle pas certains avantages? Je pose la question en premier lieu à Abdoulkarim Koné, qui se trouve au Canada.
Ok, merci pour la question, mais moi je voudrais, avec votre permission, revenir un peu en arrière sur la dernière question posée par M. Ousmane Benfana, qu'est-ce que la France... Je peux?
Allez-y.
Qu'est-ce que la France gagne le franc CFA? Moi, à mon humble avis, la France gagne deux choses. La toute première, parce que la France détient ses anciennes colonies avec leur système monétaire, notamment le franc CFA. Donc, aujourd'hui, quand il y a vote, à ma connaissance, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, ONU, la France, elle se prononce à son nom propre et au nom de ses 14 pays moribonds, c'est-à-dire nos dirigeants. Ils vont juste faire le voyage parce que c'est beau ici, hein, et l'hiver arrive tout de suite, là, tout est beau, il fait frais, il n'y a pas de poussière. Ils viennent ici à ne rien faire parce que c'est la France qui est une puissance. Au fait, elle est un lion en carton. parce qu'elle parle en son nom propre et au nom de ses 14 pays moribonds qu'elle trimballe avec elle. Mm-hmm. Donc, si je me trompe, les économistes peuvent me corriger. Mm-hmm. Deuxième point, moi je dis, l'argent n'est rien sans la production. Nous avons l'argent. Nous avons l'argent pourquoi ? On produit de l'or. On a dit qu'il y a le bauxite au Mali. Bon, moi, je m'arrête seulement à l'or et un peu de diamant parce que je suis certain pour l'or, mais pour le diamant, je dirais plus ou moins, je ne m'intéresse pas à ceci. Mmh. Mais c'est la production qui donne de la valeur à l'argent. C'est pour ça qu'on entend parler à la bourse que la valeur de l'or a monté ou a baissé. Moi, je ne connais rien dedans, mais c'est la production de nos matières premières qui donne de la valeur et à cet argent. Donc, je m'arrête là pour ces deux points, mm-hmm. mais j'ai même oublié la question que vous m'avez posée parce que je l'ai cité.
La question.
Vous avez parlé d'avantages.
Voilà, la question c'était de savoir si toutefois la zone franc quand même n'offre pas quelques avantages.
Quelques avantages. Moi, je suis sceptique par rapport à cette question parce que pour moi, aujourd'hui, dans un pays comme le Mali, je ne sais pas à combien de pourcents il est prêt. Moi, je pense qu'on doit poser cette question, étant néophyte à la matière. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire une campagne de sensibilisation et de formation avec des experts à la matière, comme nous sommes en train de le faire tout de suite. Donc, on va maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Parce que quand on va parler d'avantages et de désavantages, ça va inciter les gens tout de suite à dire « on se retire ». On n'a pas d'avantage dedans. Mais aujourd'hui, l'avantage, moi je pense qu'on n'a pas d'avoir d'avantage parce que notre structure économique ne fonctionne pas. Pourquoi ? Quand un pays contracte une dette aujourd'hui, c'est tous les citoyens qui sont endettés à part égale. Les 500 et quelques milliards que le Mali vient d'avoir, c'est sur la table aujourd'hui, on est en train de discuter. Mais il faut dire aux Maliens qu'aujourd'hui, un enfant malien qui naît aujourd'hui, moi je suis au Canada, je suis doublement endetté, parce que j'ai la double nationalité, je suis endetté ici. Mais étant ici, on est en train de m'endetter au Mali aussi. C'est-à-dire, on vient avec des milliards, milliards, milliards. Moi j'ai acheté une grosse calculatrice, et pour votre information, je suis en train de calculer les milliards. En fin d'année, moi je vais sortir les milliards. Mais comme je ne suis pas économiste, moi je pense seulement s'il y a avantage, on a des milliards-là qu'on les divise équitablement et comme les Maliens sont vraiment des commerçants et des hommes d'affaires, on va faire nos affaires. Donc moi, je m'arrête là. Sinon, moi, je suis très sceptique par rapport à cette question. Mais tout ce que je sais, quand un pays dépense de l'argent, cela représente une dépense pour chaque citoyen parce qu'on est des contribuables. Quand un pays contracte une dette, aujourd'hui, on est en train de nous donner de l'argent, de nous donner de l'argent. Mais en contrepartie, on n'est pas en train d'informer la population qui sont en train de s'endetter. Donc, nos dirigeants, malheureusement, ils achètent, je ne sais pas, c'est-à-dire le peuple ne profite pas. Il faut juste réinjecter l'argent emprunté. D'abord, savoir où vont ces sommes faramineuses dans l'économie. Notre économie ne fonctionne pas. Parce que dans les pays développés, chaque sous dépensé, ou je dirais presque 90% des sous dépensés sont imposables. Chez nous, la majeure partie de l'argent est dépensée en liquide. Donc l'État ne peut pas percevoir les impôts. Moi, si je prends un bus tout de suite entre Toronto et Montréal, je paye la taxe. Si en payant mon loyer, je paye la taxe. Ben, les 10% que les pays développés n'arrivent pas à contrôler, ça c'est les petites sommes dépensées par exemple dans les bars ou les endroits de jeu où on fait ça, c'est juste 10%. Alors que chez nous, c'est tout à fait le contraire. C'est alors, pour ça qu'il y a fuite de capitaux.
Alors, monsieur Kone, cela est bien compris. Le professeur Ablaye Niang, dites-nous, j'espère que vous allez nous trouver quand même quelques avantages offerts par la zone franc.
Oui, l'avantage, en toute chose, il y a l'avantage et il y a l'inconvénient. Mm-hmm. L'avantage aussi, c'est deux parties. Donc, il y a un avantage pour chacune des parties et il y a un inconvénient sur chacune des parties. Mm-hmm. Mais l'avantage, probablement pour les pays africains, c'est qu'ils ont appris à être unis dans une union monétaire. Lui ou moi, par exemple. Ils ont appris à travailler ensemble. Ils ont appris à faire converger certains de leurs critères. Donc là, C'est une bonne expérience. Mm-hmm. Si on devait créer une monnaie, ce serait sur le cendre du CFA. Et c'est, on va capitaliser sur les avantages d'avoir travaillé ensemble dans une monnaie, même si on était sous emprise de la France. Donc, ça c'est un avantage à coup sûr. Quel est l'avantage pour la France? La France, aujourd'hui, la France a une croissance zéro. La France a un taux de chômage très élevé et ils en ont ajouté 1 million au décompte il y a quelques semaines. La France a une capacité de rétention de 20% de la richesse des nations africaines. Et Hollande s'est fixé pour générer 200 000 emplois à partir des économies africaines. Mais ce serait essentiellement des pays à CFA, des pays francophones à CFA. Donc, la France tire des avantages dans ça. Mais le danger, quel est le désavantage pour la France? C'est-à-dire, en continuant d'utiliser la doctrine de la découverte chrétienne de nos ressources naturelles pour appliquer le principe de l'acquisition de nos terres, comme il est en train de faire pour le Mali, il risque de tout perdre. Parce que le nationalisme de ressources va nous pousser à demander à se détacher, à s'extirper de l'emprise de la France. Donc, si cet agissement n'est pas fait au niveau de la France, vous comprenez, quand les Africains se révoltent et qu'ils privent de 20% de sa capacité de rétention de richesses des nations africaines et de création d'emplois, ça peut être extrêmement dangereux pour la France. Et je suis persuadé que aussi longtemps que Alassane Ouattara, par exemple, est président de la Côte d'Ivoire, que même les tentatives qui avaient été faites pour profiter, par exemple, de l'UEMOA pour aller à l'ECO, parce que ça, c'est un avantage que nous avons voulu. C'est-à-dire que l'UEMOA, c'est 8 pays, l'expérience que l'UEMOA a eue, on voulait l'étendre aux autres pays pour couvrir les 15 pays de la CEDEAO avec la création de l'ECO. Mais malheureusement, en 2007, j'étais là, j'étais une des parties prenantes pour la conférence sur la convergence, et pour voir comment le Dalhousie de la Gambie, le CEDI du Ghana, le Naira du Nigeria, et peuvent converger vers le CFA, mais en réalité vers la zone CFA, qui est une zone monétaire unique. Et donc on allait avoir 2 sous-zones et monétaires, et en ce moment la convergence était facile. Mais je peux vous garantir que la réunion c'était 3 jours, je crois. 2 jours, on était tellement contents avec l'analyse des indicateurs et tout, et vers le lendemain, on a dit non, ce n'est pas le moment, et maintenant on parle de 2020. Mais 2020, ça correspond au moment où Alassane Ouattara va peut-être avoir ses 5 ans encore dans le marché. Et lui, il est pour la fixité. Il trouve que le CFA, tout est bon. Il n'y a rien d'autre que du bon. Bon, ça veut dire que simplement, il va tout faire pour torpiller la possibilité d'avoir une monnaie au niveau de la CEDEAO.
Ousmane Ben Fana, qu'est-ce que vous retenez comme avantage qu'offre la zone CFA aux pays membres?
Bon, écoutez, je ne vais pas répéter tout ce que le professeur vient de dire. Ce que je vais rajouter, c'est que vous savez que le franc CFA assure une sorte de stabilité aussi, quand même, que nous ne devons pas oublier. On a une forme de stabilité depuis maintenant quelques années qui font que les investisseurs peuvent se reposer sur quand même une monnaie qui vraiment a quelque forme de stabilité, parce que nous avons une parité qui est pratiquement stable. C'est vrai qu'au-delà également, nous avons ce que le professeur a dit, qui est très important, qui est cette forme de solidarité qu'il y a entre nos pays, parce que la monnaie a permis à nos pays de travailler ensemble, de comprendre les instruments, et l'ensemble des instruments monétaires de notre sous-région ont été maîtrisés par nos États de plus en plus, c'est vrai, à travers l'effort de, notamment ici, en Afrique de l'Ouest, de la BCAO, même si nous savons que la convertibilité entre, par exemple, vous voyez, le Malien lambda, ou bien le Sénégalais lambda, ne peut pas prendre le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et puis aller, par exemple, l'utiliser en Afrique centrale. Ça, ce sont, par exemple, des éléments qui, à mon avis, méritent d'être corrigés. Que, si nous sommes réellement tous du même type de franc CFA, entre guillemets, nous devons être capables d'utiliser cette même monnaie partout. Cela n'est pas un des éléments que je souligne. L'autre élément aussi, c'est que vous rendez-vous compte que si vous avez le franc CFA, est-ce qu'on peut prendre ce franc CFA, l'amener dans une banque française en Europe et le déposer directement et avoir ça, cela, en euros? Donc, ça également, ça, c'est le problème un peu de convertibilité du franc CFA, qui aujourd'hui également joue beaucoup, parce que tout cela se joue avec les devises que donc le Trésor français, la Banque centrale française met à notre disposition ici. C'est sur cela que cela se passe. Maintenant, il y a toujours aussi la faiblesse de l'inflation dans notre zone, qui est également un des avantages. J'ai dit quelques trois désavantages, mais nous avons aussi l'inflation dans la zone franc, parce que certains des pays, vraiment, l'inflation est de plus en plus maîtrisée. L'UEMOA, comme il vient de le dire, joue un grand rôle, et la CEMAC aussi, vraiment également, fait beaucoup d'efforts dans ce sens pour que nous ayons une certaine cohérence et une grande indépendance dans la conduite de notre politique monétaire. Maintenant, c'est vrai également qu'un des désavantages aussi, je vais le souligner, c'est que nous ne pouvons pas utiliser ce que d'autres font, la planche à billets. Quand nous avons des problèmes, des difficultés financières, on n'a pas cette possibilité. C'est vrai que ça nous permet de maîtriser l'inflation, mais cela est parfois aussi joue sur certaines économies, parce qu'utiliser parfois la planche à billets aide l'économie, peut parfois permettre à l'économie de respirer comme le dollar. Quelque part, de temps en temps, il arrive vraiment que le trésor américain agisse un peu, autorise, agisse un peu dans ce sens. Maintenant, l'élément que je voudrais souligner, et parce que cet élément, je l'avais un peu abordé.
Juste en quelques mots pour aller à la pause, oui.
Je l'avais un peu abordé. Mm-hmm. Vous savez, tout cela est fonction, honnêtement, de notre puissance économique. Parce que l'affaire du franc CFA, que nous sortions, que nous restions dans le franc CFA, va être fonction de notre capacité aussi à transformer nos matières premières. Parce que vous savez, une monnaie ne peut pas avoir une puissance, ne peut pas avoir une force si nous ne sommes pas capables de doper ce que nous appelons nos importations.
Alors, Ousmane Benfama, nous allons donc observer une pause avant de poursuivre ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le franc CFA, le sujet du jour. Le sujet est un peu plus d'actualité avec cette déclaration du président tchadien Idriss Déby qui invitait donc les pays membres de la zone à se débarrasser du CFA. Une question à présent, au lieu de songer quand même à quitter la zone franc, ne vaut-il pas mieux de revoir ensemble avec la France ce qu'il y a lieu de faire pour que les choses aillent mieux, que les choses aillent donc mieux, qu'elles soient mieux équilibrées entre les parties? Je pose la question au professeur Blanyang.
Non, je ne pense pas qu'il faut faire du bricolage, non. L'Afrique, c'est la région de croissance économique globale. L'Afrique aussi est cette région de croissance démographique globale. L'Afrique ne peut pas développer sa capacité de création de croissance économique à un niveau mondial sous emprise de la France, qui est un pays délinquant au niveau de l'Union européenne du point de vue convergence. La France est l'un des pays les plus délinquants au niveau de l'Union européenne. Il n'accepte pas qu'il continue à s'endetter à un niveau où il est à l'heure actuelle. Et la France, par exemple, si je me réfère à ce que l'honorable Ndiaye a dit l'autre jour, nous, on a un ceiling de 23% du PIB pour la dette. Alors que tous les pays qui veulent se développer, qui veulent émerger, peuvent s'endetter jusqu'à 100% du niveau de leur PIB. Donc, vous comprenez que l'ambition du monde pour l'Afrique d'être cette puissance, cette croissance, région de croissance économique, ne peut pas être réalisée avec la France ayant son emprise sur nous. Donc, je dis encore une fois de plus, le Mali est l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique qui peut prendre le risque de s'assumer, de créer une monnaie unique africaine, je l'appelle peut-être pour le moment MUA, monnaie unique africaine, parce que simplement, il a une réserve d'or relativement très importante. C'est le premier pays francophone à or. Et il peut frapper aujourd'hui sa monnaie adossée à l'or, mais adossée surtout sur une co-entreprise de production d'or que j'appelle co-entreprise Sanou, qui aura une emprise sur toutes les capacités de production d'or à travers l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y aura des branches partout. La première branche, d'ailleurs, c'est à Kibali, et en RDC. La deuxième branche, ce serait à Tongan et en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui on applique la loi Ibeka pour notre sortie de crise. On allait faire émerger la contribution à nous. Et mieux, le Mali est l'un des rares pays aussi à avoir, et dans le nord, et dans le sud, et partout, des terres agricoles, du soleil, de l'eau souterraine, qui permet aujourd'hui de faire du Mali une puissance agricole aussi. Parce que si tu contrôles tu veux contrôler quelqu'un, il faut le contrôler par le ventre. Et puis, en dernier ressort, le Mali à Tessalit, qui est une localité géostratégique, qui est convoitée par tout le monde, si nous voulons nous assurer que demain, l'Afrique soit préservée d'attaques 4S, comme ce qu'on a vu à Inamenas. Donc, le Mali aujourd'hui peut prendre le leadership si jamais les chercheurs sont écoutés par les politiques. Si les chercheurs sont écoutés par ceux qui sont dans la classe économique, si les chercheurs sont écoutés par ceux qui sont dans la société civile, pourquoi je dis la société civile? Parce que ce que nous avons vu à Paris l'autre jour veut dire simplement que on veut nous mettre sous emprise totalement et nous assujettir sous la France. Donc les Maliens doivent réagir aujourd'hui pour aller vers la création de cette monnaie et qui sera acceptée comme en 44. On a accepté le dollar comme étant le standard parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'or fin pour pouvoir supporter les échanges entre les pays.
La création du monnaie, on en parlera. Mais pour l'instant, je pose la question suivante à Abdoul Karim Kone, qui est écrivain, il se trouve au Canada. Dites-nous, monsieur Kone, n'y a-t-il pas une alternative au retrait de la zone?
Une alternative?
Oui.
Moi, je suis, comme je vous ai dit, moi, je suis centriste. Je ne suis ni pour le retrait, ni pour continuer avec le franc CFA, parce que je suis vraiment néophyte à la matière, mais quand même, je vais sauter tout de suite un peu sur le dernier point de monsieur le professeur Abdoulaye Niang, et comment on doit réagir, et les Maliens doivent réagir. Moi, je pense personnellement, en retournant un peu la question, c'est que quand vous avez parlé d'aller vers la France, moi je pose la question, je dis qui doit aller vers la France? Ce n'est pas nos dirigeants. Parce que normalement, dans un État démocratique, c'est la voix du peuple qui compte. Donc moi je pense réellement qu'on doit commencer, par exemple, pour réagir avec une campagne de sensibilisation et de formation en détail, comment les banques fonctionnent, comment l'économie fonctionne, ainsi de suite, pour finir par le choix du peuple par la voie référendaire. C'est ça, la démocratie. C'est le peuple qui va se prononcer et par vote. Parce que nous ne parlons pas de référendum dans nos pays pauvres, là, si ce n'est pas à la veille des élections. Et ça, juste pour aller changer quelques articles, pour que le président puisse se représenter. Donc, moi, je dis sincèrement, on doit accentuer la formation des citoyens, les sensibiliser, parler, c'est-à-dire c'était un sujet tabou il y a quelques années, mais aujourd'hui, moi, je suis très content parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai pris plein de notes et je profite de l'occasion pour vous informer que je suis en train d'enregistrer aussi parce que telle occasion ne se présente pas tous les jours. Je m'arrête là.
Nous donnons la parole à Ousmane Benfana. Dites-nous, monsieur Benfana, comment est-ce que vous réagissez à ces propos par rapport à un éventuel retrait des pays membres de la zone franc?
Vous savez, moi je pense que nous devons aller doucement. Nous devons aller doucement parce que au-delà des questions économiques, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, un pays seul, il est extrêmement important que ce pays, comme je le disais tantôt, tienne économiquement. Parce que vous savez, comme moi, que quand on regarde aujourd'hui, la monnaie est peut-être considérée comme l'outil pour les populations. Donc pour que nous puissions battre notre monnaie, il est extrêmement important qu'on ne tombe pas dans les mêmes difficultés comme nous l'avons vécu en son temps avec les pouvoirs précédents. Parce que vous savez que le Mali, on avait un franc malien. Et après, vous imaginez à l'époque quelle était à la limite la violence qui s'exerçait sur cette monnaie. Et comment d'autres se sont acharnés pour à la limite couler cette monnaie-là. Donc nous devons aller doucement. Et déjà, là où j'étais d'accord avec le professeur, c'est que déjà nous avons une expérience. entre pays, entre pays voisins. Maintenant, nous devons faire beaucoup d'efforts, c'est mon avis, pour renforcer l'homogénéité de nos politiques budgétaires, politiques fiscales, commerciales et monétaires. Nous avons déjà fait énormément d'efforts sur tout ce qui concerne les questions d'infrastructure, de bonne gouvernance. Nos pays ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens déjà. C'est ce qui fait aujourd'hui que le taux de croissance africain, quand on le regarde, fait des pics dans beaucoup de nos...
Monsieur Kone, il nous reste très peu de temps. Nous allons faire un dernier tour très rapide de la table avec cette question. Un pays membre de la zone franco, le Mali, peut-il réussir aujourd'hui ou dans un avenir très proche la création de sa propre monnaie, professeur Niang?
Absolument. C'est aujourd'hui, pas demain, à coup sûr. Je prends là où mon frère a laissé tout de suite là, le taux de croissance. Le taux de croissance, précisément parce que le taux de croissance est très élevé et que le Mali est à la 132e place de l'indice de développement humain, ce fossé entre le développement économique et le développement humain est une raison fondamentale, une cause fondamentale pour se sortir de l'emprise de la vallée de globalisation de l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui menée beaucoup plus par la France. Donc, pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est vrai, il faut être prudent et je suis entièrement d'accord. Je ne commençais pas par la monnaie, c'est parce que j'ai participé à 2 ou 3 débats ou 4 débats ces derniers temps que je suis allé vers la monnaie. Sinon, ce que je voulais, c'était de voir le Mali, sous la prééminence du Mali, de voir émerger des co-entreprises économiques africaines où nous mutualisons toutes nos ressources naturelles pour créer des grandes multinationales. Et à 45% de capacité de rétention pour le pays qui donne la ressource exploitée, 15% pour les autres nations africaines et 40% pour le reste du monde. Et je disais que le Mali était capable aujourd'hui de faire émerger de ses ressources la co-entreprise Sanou, l'or, et que le Mali était capable aujourd'hui de faire émerger la co-entreprise agriculture familiale africaine, et que le Mali était aujourd'hui capable de faire émerger la co-entreprise sécuritaire de l'Afrique. Et donc voilà 3 grandes multinationales. Et au niveau du continent africain, il y a très peu de pays qui ont cette opportunité. Alors, et comment le faire maintenant, si je peux me permettre, comment le faire maintenant? Parce que la résolution 2027 a parlé de la prééminence du Mali pour la sortie de la crise globale et sécuritaire, parce qu'on a été frappé par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui nous permet de prendre des actions extraordinaires, des actions qui sont conformes aussi à l'article 7 de la loi Ibeka. Et comme on n'a pas tout le temps, 04051, pourtant, la Direction Générale de Défense. Okay. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se jeter à l'eau. Le Ghana a sa monnaie, même la Gambie a sa monnaie, le Nigeria a sa monnaie, mais si le Mali aujourd'hui veut frapper une monnaie qui va être régionale, qui va être celle de l'Afrique de demain, mais il n'y a pas de raison comme le dollar l'a été en 44.
Alors, créer sa propre monnaie pour un pays comme le Mali dans un avenir très proche, est-ce réaliste, Ousmane Ben Fana?
Moi, je pense que créer une monnaie va franchement d'une grande volonté politique d'abord. Donc, cela va de soi. Maintenant, cela est réaliste. On peut bel et bien, les États ont le droit d'aller vers la monnaie. Maintenant, nous savons que même la France, à l'époque, le ministre français a clairement dit si ceux qui veulent aller vers la création de monnaie, la France ne s'y oppose pas. Ils l'ont dit. Mais nous savons tous que nous avons aussi aujourd'hui d'autres réalités et ces réalités-là, nous devons les intégrer. Et nous avons aujourd'hui une économie au-delà de l'or qui, à mon avis, doit plus progresser. Regardez tout ce qui est transformé ici. Regardez par exemple le coton. Moi, je ne prends pas l'or, je prends le coton. Quand on regarde le coton, de la production du coton jusqu'à son utilisation pour en faire des habits que nous portons ici, qu'est-ce qui profite réellement à notre économie ici? C'est le coton est payé brut à 1 kilo le prix, et ce qui nous est revendu, quand on regarde, que ce soit depuis le bateau qui transporte le coton, l'assurance, ce qui le débarque, jusqu'à la transformation, jusqu'à aller dans les marchés, tout cela profite à des intermédiaires. Alors, est-ce que des intermédiaires, les Maliens?
Merci Ousmane Ben Fana. Le temps imparti est déjà fini. C'est donc la fin de ce débat. Je rappelle que nous avions 3 invités, le professeur Ablaye Niang, économiste, Abdoul Karim Kone, qui est au Canada, et Ousmane Ben Fana, économiste. Réalisation Ayouba So, mise en onde Seydou Mbo, régie vidéo Mamadou Ouattara. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. Au revoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et toi.
et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halud Mouni.
Chenni Biri. Sikika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.